Notre invité à 7h50 sur France Inter est un intellectuel engagé, un essayiste, un romancier. Bonjour Pascal Bruckner.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans votre dernier livre, qui sortira mercredi en librairie, on découvre que vous avez une relation très forte, très personnelle, je dirais même très charnelle, avec le monde de la montagne. Manifestement, vous aimez grimper, incontestablement, vous savez vous dépasser et vous évoquez avec une vraie délicatesse la neige, les sapins, le lait des alpages suisses et forcément les sommets. On comprend très vite que vous connaissez tout de cet univers de la montagne. Vous n'en aviez jamais rien dit. Pourquoi cette cachotterie, Pascal Bruckner ?
Non, en fait, j'en avais parlé dans des romans.
Que je n'avais pas lu, donc manifestement.
Ici ou là, oui.
D'accord.
Et donc, mais effectivement, c'est quelque chose que je n'avais pas développé comme je le développe là, c'est-à-dire frontalement. Puisque comme j'ai vécu en Suisse et en Autriche dans mon enfance, ça m'a donné un goût de la montagne et de la neige que je cultive depuis et qui ne s'est jamais dissipé.
Mmh. Alors vous parlez de vous, vous parlez beaucoup de vous dans ce petit traité d'élévation, dans l'amitié d'une montagne. Et vous vous présentez pas forcément sous votre meilleur profil. Vous dites de vous, je vous cite, que vous êtes un pétochard qui s'engage dans certains couloirs avec la mentalité d'un condamné à mort. Vous êtes sûr que vous aimez vraiment la montagne ? Qu'est-ce que vous allez y chercher là-haut, dans les cimes et sur les glaciers ?
Bah oui, c'est un peu le mystère de la montagne. C'est-à-dire que j'adore la moyenne montagne, les alpages paisibles, les prés, mais je suis attiré par les sommets. Et effectivement, les sommets, pour les affronter, il faut avoir une certaine dose d'inconscience. Mais je ne cache pas que lorsque je grimpe, le plus souvent avec un guide ou avec des amis, il m'arrive d'avoir peur. C'est-à-dire que le monde de la montagne est souvent écartelé entre les fiers à bras, ceux qui grimpent sans crainte, et puis les autres qui sont regardés avec condescendance. Et moi, je n'ai pas peur de dire qu'effectivement j'ai souvent peur, que je n'ai...
Et vous êtes arrivé de vous faire des vraies frayeurs, c'est ça ?
Ah ben, il ne m'est pas arrivé, il m'arrive à chaque fois d'avoir très peur, mais on revient toujours. C'est cette peur surmontée qui, je pense, fait tout le prix d'une ascension, d'une escalade, c'est que finalement, ce n'est pas une victoire sur la montagne, parce que ça n'a pas de sens, c'est une victoire sur soi-même. Et donc on est heureux ensuite d'avoir réussi à grimper tel ou tel sommet, parce qu'en quelque sorte, on s'est dépassé.
Mais quand même, pourquoi grimper, Pascal Bruckner ? Pourquoi grimper pour au final, de toute façon, devoir redescendre ? J'ai envie de dire, c'est le mythe de Sisyphe, d'ailleurs vous en parlez dans votre livre. Est-ce qu'on est obligé de s'infliger ce type de souffrance ?
Non, on n'est pas obligé, puisque personne ne nous pousse à grimper. Mais la montagne, c'est un peu une métaphore de la vie. On vit en sachant qu'on va mourir. Et là, on grimpe en sachant qu'on va redescendre. Mais tout le prix de l'ascension, c'est justement dans ce défi un peu absurde qui fait qu'une fois arrivé à un sommet, on s'est dit « Tiens, j'ai envie de faire tel autre ou tel autre ». Et cette absurdité était finalement assez délicieuse parce qu'on va grimper beaucoup plus de montagnes qu'on ne connaîtra de vie.
Mmh. En fait, c'est quoi ? C'est besoin de se sentir vivant ? C'est le meilleur moyen de combattre son propre vieillissement ?
Oui, alors voilà, je pense que chaque fois que je suis à la montagne, je sens que j'ai un corps, que ce corps a des limites et qu'en même temps je peux les dépasser. Et donc j'ai en moi, et je pense que c'est vrai de toute personne qui est à la montagne, beaucoup plus de force que je ne crois. C'est-à-dire face à un mont quel qu'il soit, on se dit j'y arriverai jamais, c'est
exactement.
Pas possible, c'est trop haut, c'est trop dur. Et puis finalement, patiemment, avec de l'entraînement et de l'exercice, on y arrive. On peut échouer, puis on recommence, et on se dit, mais finalement, je suis beaucoup moins faible et beaucoup moins fragile que je ne le pensais, et donc j'ai eu raison de faire. Et donc, quand on arrive au sommet, il y a un sentiment il y a une jouissance. De l'effort accompli, de la souffrance transformée en plaisir, qui est quelque chose d'absolument inouï.
Mais ce qu'on perçoit quand même aussi, c'est que c'est vertigineux de vieillir. Pascal Bruckner, non ?
De vieillir ?
Ouais.
Vertigineux, non, c'est malheureusement très prosaïque, mais on peut avoir une vieillesse heureuse. C'est-à-dire que la vieillesse n'est pas toujours synonyme de déclin ou de naufrage. Il peut y avoir des thérapies ou des manières d'être ou des sagesses qui vous permettent de vieillir non pas seulement dans la dignité, mais surtout dans une certaine forme de gaieté. Et moi, dès que je monte au-delà de 1000 mètres, je sens une sorte d'euphorie. J'ai l'impression que le monde est plus beau. Et je suis toujours malheureux de retomber dans la plaine, parce que la plaine, c'est le prosaïsme. La plaine, c'est souvent beaucoup moins beau que le pays haut. Et donc, je suis, il y a des manières de vieillir heureuses. Heureusement, d'ailleurs.
Alors, la plaine, c'est aussi les polémiques que vous n'avez jamais peur de susciter, sur l'antiracisme, par exemple, sur le néo-féminisme. Et là, vous n'en parlez pas. Enfin, là, c'est pas polémique. Est-ce que vous avez cherché volontairement à changer de registre?
Oui, alors là, j'ai fait un pas de côté. C'est-à-dire, je pense qu'il doit y avoir dans toute carrière d'un écrivain, il y a, comme vous le dites, il y a un aspect polémique. On participe aux luttes idéologiques du moment, mais il faut aussi savoir se consacrer à ses passions. Or, la montagne est une de mes passions, et peut-être même la principale, et donc j'ai décidé d'abandonner tous les débats du jour pour aller respirer l'air pur des hauteurs.
Alors, les abandonner, pas complètement, vous réglez quelques comptes quand même, vous dites ce que vous pensez notamment des véganes, alors assez rapidement, mais vous dites quand même ce que vous pensez des véganes, des antispécistes. Mais rien sur les bouleversements climatiques. Vous constatez, je vous cite, les changements intervenus, mais vous n'en tirez absolument aucune conséquence. Vous continuez à écrire, la montagne est assez vaste pour accueillir tout le monde. Vous êtes sûr ? Vraiment ? On peut continuer à accueillir tout le monde en
montagne ? Pour accueillir toutes les mentalités, c'est ça que je voulais dire. Non, justement, je fais tout un passage où j'explique que l'affluence des touristes risque de détruire les villages.
Mais vous la condamnez pas, cette influence ?
Si, je dis qu'elle doit être limitée. Je dis qu'elle doit être contingentée, notamment pour les plus hauts sommets. Au contraire, j'écris tout un chapitre là-dessus, et je m'élève notamment contre la construction de ce qu'on appelle les lits froids, c'est-à-dire ces chalets qui s'érigent chaque année dans les villages et qui sont absolument inutiles, qui détruisent les terrains et font de nos stations des chantiers en permanence. Donc au contraire, plus on aime la montagne, plus on a envie de la protéger. Et au fond, il n'est pas mauvais qu'elle soit par moments assez rébarbatif, parce que cela veut dire que les grandes foules de touristes resteront à l'écart de nos massifs.
Ça veut dire que le Mont Blanc, le glacier du Mont Blanc, il faut plus l'autoriser à tout le monde ?
Non, il faut prendre un permis pour grimper, mais je pense que le Mont Blanc, comme l'Himalaya, comme tous les grands sommets, seront très bientôt contingentés et soumis à des quotas de grimpeurs chaque année, avec amende pour les contrevenants. Donc ça, c'est évident qu'on ne peut pas laisser les sommets les plus hauts accessibles à tous.
Mais vous dites que vous y avez droit, hein, vous y avez accès.
Ah, moi, j'y ai pas droit, non.
Non, mais je veux dire, par là, c'est une question de catégorie, c'est une question de...
Non, c'est une question
qui
de...
peut continuer à aller sur ces glaciers-là.
C'est une question d'aptitude, de capacité, mais surtout, c'est une question de nombre. Le nombre tue la beauté du site. Et c'est ça qu'on ne peut pas admettre. Donc, il va falloir à un certain moment, plutôt que de continuer à engranger des royalties, parce que c'est souvent une question d'argent pour les communes, il va falloir accepter que, pour protéger tel ou tel site, on ne puisse pas y autoriser n'importe qui à y monter. Et donc, il y aura des interdictions et des sanctions. C'est évidemment très triste, mais c'est la rançon du succès, parce que finalement, la montagne, c'est l'autorisation pour tous d'accéder à des beautés qui peut-être peuvent disparaître sous l'effet du nombre.
Donc finalement, on a besoin des écolos, Pascal Bruckner.
Ah, mais qui dit le contraire ? Nous sommes tous écologistes. Alors, nous sommes tous pour l'écologie. A-t-on besoin des écolos en tant que parti politique ? Ça, c'est un autre débat dans lequel je n'entrerai pas si tôt ce matin avec vous. Mais évidemment, la montagne rend écologique, parce qu'on a une sorte de tendresse pour un paysage ou pour un milieu qui risque de disparaître sous l'affluence des citadins, des urbains qui montent en masse et qui finalement n'ont aucun souci pour la pérennité de cet endroit-là.
Merci beaucoup, Pascal Bruckner.
Merci, Karine Becker.
Je rappelle le titre de votre dernier livre, « Dans l'amitié d'une montagne ». C'est un petit traité d'élévation aux éditions Grasset. La sortie est prévue pour ce mercredi. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche.
Merci, vous aussi.